Bienvenue au balado du collectif de recherche Femmes en vie. Je suis Alexandra Vincent, membre du collectif, et je partage le micro avec mes collègues Isabelle Côté et Simon Lapierre. Bonjour Simon, bonjour Isabelle.
Salut Alex.
Aujourd'hui, l'épisode est consacré au sujet des pratiques d'intervention auprès des conjoints violents, leurs origines, leur évolution, les bonnes pratiques et les défis qui persistent. Dans les derniers mois, l'ampleur des violences faites aux femmes et leur forme la plus extrême, le féminicide, s'est exacerbée. Plusieurs groupes féministes ont pris la parole pour dénoncer ces féminicides et souligner l'urgence d'agir pour assurer la sécurité des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Des groupes ont aussi interpellé les organismes pour conjoints violents à briser leur silence et dénoncer les féminicides. Des politiciennes et politiciens se sont adressés directement aux hommes, par exemple Manon Massé, le premier ministre François Legault, lors d'une conférence de presse en mars dernier, pour que ça change de leur côté. Le discours à l'endroit des conjoints violents s'est accentué à mesure que l'indignation s'élevait dans la population. Vous avez peut-être aussi remarqué la nouvelle campagne de sensibilisation à la violence conjugale du gouvernement québécois intitulée « Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là ». Et un discours qui s'adresse à tous les hommes a émergé de façon à les sensibiliser et les responsabiliser sur la masculinité toxique, par exemple avec le mouvement hashtag ParlaTesBoys. Bref, c'est un sujet incontournable. Et en guise d'entrée à la matière, on vous a préparé un petit sondage. Donc, vous allez constater qu'il y a plusieurs choses qui se disent sur l'intervention auprès des conjoints violents. On a sorti 5 extraits pour vous, donc 5 questions, et on va vous donner les réponses à la toute fin du balado. Donc, Simon, Isabelle, vous êtes toujours là?
Oui.
Alors, la première question. Quel politicien a dit « Il n'y a rien de masculin » Il n'y a rien de viril à être violent avec une femme. Au contraire, moi, je trouve ça lâche.
C'est facile, celle-là.
Mm-hmm. Numéro 2. Qui a dit « Une intervention sans conséquence ne fonctionnera pas pour un conjoint violent. Le processus doit être désagréable et inconvénient pour lui. »
C'en est une bonne.
La troisième. Quel psychologue a affirmé? On sait très bien que la violence conjugale, c'est le résultat de ce que moi j'appelle une schismogenèse complémentaire dont les deux partenaires sont co-responsables. J'ai de la difficulté à la dire sérieusement, celle-là. La quatrième question, qui a dit « Les femmes qui tuent leurs partenaires violents sont mes héroïnes, car les faire disparaître de la planète est un service rendu à toutes les femmes? »
Controversé.
Et la dernière question, les programmes psychosociaux destinés, qui a dit les programmes psychosociaux destinés aux agresseurs permettent d'éviter de considérer la violence comme un crime? Peut-être que les escrocs et les voleurs pourraient aussi bénéficier d'un traitement psychosocial? Alors, on va vous donner toutes les réponses à ces questions à la fin du balado. Donc, pour commencer, Isabelle, on va revenir à notre sérieux. Peux-tu nous parler de l'origine des groupes d'aide aux conjoints violents?
Oui, bien, sommairement, ces programmes-là ont vu le jour aux États-Unis à la fin des années 70 pour traiter ceux qu'on appelait les batteurs de femmes. Et le premier de son genre, c'est Emerge à Boston, qui a été créé en 1977 par un groupe d'hommes qui étaient alliés au mouvement féministe, puis en fait, qui souhaitaient mettre la main à la pâte en travaillant auprès des hommes violents. Dans un contexte où les ressources étaient déjà très limitées et les femmes qui travaillaient auprès des victimes étaient déjà assez occupées, puis elles sentaient qu'elles avaient besoin d'aide pour la portion du travail auprès des hommes. Donc, c'est vraiment à la demande de celles qui travaillaient auprès des victimes que ces pionniers-là se sont lancés dans le projet. Et une des observations qui a été faite dans les premiers groupes, c'est que ces hommes-là, ben, non seulement battaient leur conjointe, mais avaient aussi des croyances, des attitudes problématiques. Et les pionniers de ces programmes-là se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas seulement travailler à changer leur comportement, parce que derrière ces comportements-là, derrière les stratégies de contrôle, on retrouve des attitudes misogynes. Fait que les premiers groupes se sont donnés comme mission de rééduquer ces hommes-là pour les amener à cesser d'utiliser la violence dans le couple, puis éviter aussi qu'ils fassent d'autres victimes. Et quand on regarde un peu au niveau des pionniers, des pionnières de ces groupes-là, qui incluent David Adams, Ellen Pence, ces gens-là adhéraient à la vision féministe de la violence conjugale. Donc, ils ne voyaient pas l'intervention auprès des hommes violents comme étant une solution à long terme. Et dans cette logique-là, il n'y avait pas la prétention de vouloir régler le problème. T'sais, travailler avec les batteurs de femmes, c'était vu comme une réduction des méfaits, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant ici, Simon et Alex, c'est que si on suit cette logique-là, les groupes pour hommes violents devaient embarquer dans la portion du changement social, comme le font les maisons d'hébergement, pour éliminer la violence conjugale. Fait que ça, c'était un peu ce qui caractérise la première vague de programmes fin des années 70, début des années 80. Et là, ce qui est arrivé au milieu des années 80, on est tombé dans ce qu'on appelle une deuxième vague de programmes, parce qu'on a assisté vraiment à la prolifération de ces groupes-là. Ce qui est arrivé aux États-Unis, en fait, c'est que plusieurs États ont mis en place des politiques d'arrestation obligatoires pour protéger les victimes. Et là, étant donné qu'il y avait de plus en plus d'arrestations, bien, il y avait de plus en plus besoin de ces programmes-là, vers qui référer les hommes. Fait que les programmes se sont développés très rapidement, mais pas toujours dans l'optique, tu sais, dans la logique des premiers programmes, pas toujours dans l'optique de responsabilisation. Ça veut dire, par exemple, qu'on pouvait retrouver des organismes communautaires qui offraient différents services, puis qui décidaient de développer un programme pour conjoints violents. Fait que ça, c'est un peu comment ces programmes-là ont émergé. Pour ce qui se fait du côté du Québec, ben Alex, je pourrais te laisser nous éclairer un peu.
Oui, donc au Québec, les premiers services aux conjoints violents ont vu le jour au milieu des années 80 et ils privilégiaient une analyse féministe de la violence conjugale. Issus du milieu communautaire ou des CLSC, d'autres groupes ont aussi mis sur pied des programmes de traitement dans le but d'aider les conjoints violents à entreprendre une démarche de changement. En 92, le ministère de la Santé et Services sociaux a publié des orientations par rapport à l'intervention auprès des conjoints violents, des orientations qui s'inscrivaient dans le prolongement de la politique d'aide aux femmes violentées de 1987. Et ce document-là stipulait que l'intervention auprès des conjoints violents doit considérer que le comportement violent est une forme de contrôle appris et perçu comme avantageux et non pas comme une maladie. L'intervention auprès de ces hommes devait donc clairement viser à leur faire reconnaître et assumer leurs responsabilités par rapport à leur violence, et tout en s'inscrivant dans une perspective plus large de changement social visant à éliminer les rapports de domination des hommes sur les femmes. On précise aussi dans ce document que l'intervention doit avoir des visées préventives au-delà des interventions thérapeutiques individuelles et ne doit pas être perçue comme une alternative aux sanctions pénales. Donc, par la suite, en 1995, la politique d'intervention en matière de violence conjugale allait dans le même sens, stipulant que les agresseurs sont responsables de leur comportement violent et que l'intervention doit viser à leur faire reconnaître leur responsabilité face à cette violence et à l'assumer. Donc, on était vraiment dans la responsabilisation. L'objectif de ces orientations-là était de protéger les victimes de cette violence, les femmes et les enfants, et qu'il y ait une certaine forme de répression des agresseurs pour leur comportement. Donc, par ces énoncés, la politique visait aussi à éliminer les lacunes de l'intervention auprès des conjoints violents, des lacunes qui étaient déjà constatées à l'époque, par exemple, la courte durée des programmes, un taux d'abandon élevé, l'intervention en situation de crise qui n'était pas toujours disponible, le fait que certaines régions n'aient pas de services pour conjoints violents tout court, Le fait que les programmes n'ont pas toujours la même analyse de la violence conjugale et ne démontrent pas tous la même compréhension du phénomène. Et finalement, les questions associées à la confidentialité des dossiers qui rendent parfois difficile l'échange d'informations entre ces ressources et celles qui accueillent les femmes. Et ce qui fait en sorte que la sécurité et la protection des victimes ne sont pas toujours assurées. Donc, 30 ans plus tard, après la publication de ces orientations-là, Simon, où est-ce qu'on en est?
Bien, en fait, c'est une bonne question. Au Québec, comme tu le nommais, hein, une des spécificités, en fait, au Québec, c'est que la majorité des programmes pour conjoints violents sont offerts par des organismes communautaires autonomes. Ce qu'on sait, c'est qu'au cours des dernières décennies, des organismes qui peut-être initialement offraient spécifiquement des services pour les conjoints violents se sont diversifiés de différentes façons, donc ont diversifié leurs sources de financement. On sait qu'il y a eu au cours des dernières années des organismes qui étaient financés en violence conjugale sont maintenant financés de plus en plus sous l'enveloppe de la santé et du bien-être des hommes. Les organismes ont aussi diversifié leurs services, donc des organismes qui offraient essentiellement des services pour les conjoints violents peuvent avoir développé, par exemple, des services pour les hommes en difficulté, pour des hommes qui ont été victimes d'abus durant l'enfance, pour des hommes en situation d'itinérance, pour des pères séparés. Donc, vraiment une diversification des services. Et tout ça, ça fait que dans un contexte où il n'y a pas eu d'évaluation des services pour conjoints violents au Québec dans les dernières décennies, bien, ça fait qu'on ne sait peut-être pas exactement, en fait, quel est l'état ou l'offre de services pour les conjoints violents actuellement au Québec. Et ça pose certainement un certain nombre de questions. Et parmi les questions qui sont souvent soulevées dans ce contexte-là, c'est ben, d'abord, quel est actuellement la mission ou le mandat de ces organismes-là qui offrent, entre autres, des services pour les conjoints violents? Est-ce que leur mission et leur mandat est toujours de travailler auprès des conjoints violents dans l'objectif d'assurer la sécurité des femmes et des enfants, ou est-ce que leur mission et leur mandat est un peu dilué compte tenu de la diversité des services qu'ils offrent? Une des questions qui a été beaucoup soulevée au cours des dernières années, c'est est-ce que ces organismes-là adhèrent toujours aux principes de la politique d'intervention en matière de violence conjugale et à la définition de la violence conjugale qui est proposée dans la politique. On peut aussi se poser la question sur l'approche qui est privilégiée. Est-ce que c'est toujours une approche centrée sur la responsabilisation qui s'inscrit dans une perspective féministe et dans une visée de changement social et de lutte aux inégalités entre les femmes et les hommes? Et finalement, je pense qu'une autre question qui mérite d'être soulevée, c'est quels sont exactement les mécanismes en place tant pour l'évaluation des hommes qui ont recours à ces services-là et quels sont les mécanismes de surveillance aussi qui sont en place lorsque des hommes sont en contact avec les organismes? Et est-ce qu'il y a même en fait une mission ou un mandat de surveillance, ou est-ce que du fait qu'ils ne sont pas financés par le ministère de la Justice, mais qui sont des organismes communautaires autonomes qui relèvent de la santé et des services sociaux, est-ce qu'ils peuvent se distancier de cette mission-là de surveillance? Donc, je pense qu'il y a même un questionnement à savoir est-ce qu'ils ont un rôle de surveillance lorsqu'ils interviennent auprès de ces conjoints-là? Je pense que c'est toutes des questions qui mériteraient d'être... sur lesquels on mériterait de se pencher et qu'il faudrait avoir peut-être un certain nombre de réponses. Ce qui est peut-être aussi intéressant de noter, c'est que récemment, on en a parlé dans des épisodes précédents, le comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales a publié son rapport en décembre 2020, l'année dernière. Et il y a quand même un chapitre dans ce long rapport-là qui propose un certain nombre de recommandations qui touchent particulièrement l'intervention auprès des conjoints violents. Et je pense que ça nous donne des pistes, ben, ça peut nous donner comme ça société ou comme gouvernement des pistes intéressantes pour nous assurer qu'on a une offre de service qui est adéquate et qui est de qualité. pour les conjoints violents au Québec. Donc, brièvement, il y a en fait 5 grandes recommandations qui s'adressent qui touchent l'intervention auprès des conjoints violents. Et je ne vous les lirai pas textuellement, mais en gros, la première recommandation touche vraiment souligne l'importance de dresser un portrait des services qui sont actuellement offerts pour les conjoints violents et d'évaluer aussi la qualité et l'efficacité de ces services-là. La deuxième recommandation, elle touche davantage l'importance d'améliorer les services qui existent, de les encadrer aussi et d'avoir des mécanismes d'évaluation des programmes de manière, je dirais, continue. Cette deuxième recommandation-là insiste aussi sur l'importance de se doter de processus d'accréditation pour être certain, notamment que lorsque des hommes sont référés, particulièrement référés par les tribunaux ou par la direction de la protection de la jeunesse vers un groupe pour conjoints violents, de s'assurer que les services qu'ils reçoivent sont des services de qualité et qu'on sait exactement quelle est l'offre de service pour eux. Et ensuite, les trois autres recommandations, ben, une est à l'effet de s'assurer que ces services-là sont disponibles à travers la province, ce qui n'est pas nécessairement le cas là, à travers le territoire. Et le comité proposait aussi de mettre en place une ligne provinciale d'accueil et de référence auquel des hommes pourraient faire appel, mais aussi des professionnels, des policiers, des travailleurs sociaux qui interviennent auprès de ces hommes-là pourraient faire appel pour pouvoir mieux diriger les hommes vers des ressources appropriées de qualité dans leur région. Et finalement, une dernière recommandation qui s'adresse plus spécifiquement aux policiers, mais c'est de s'assurer que lorsque les policiers interviennent auprès des conjoints violents, on sait qu'il y a souvent une fenêtre d'opportunité pour les mobiliser, qu'on s'assure qu'il y ait des références qui soient faites de manière plus systématique, soit vers la ligne provinciale de référence ou vers les organismes pour conjoints violents. Donc, ce sera intéressant de voir comment toutes ces recommandations-là sont reprises par les ministères concernés, que ce soit santé, services sociaux, justice ou sécurité publique. Mais je pense qu'on a des pistes quand même intéressantes pour améliorer ou en tout cas assurer la qualité de nos services pour conjoints violents au Québec.
Merci. Puis on peut bien comprendre le fondement de ces recommandations-là, mais Isabelle, à quoi on peut s'attendre de ces services-là ou qu'est-ce qu'on connaît sur les standards de qualité dans l'intervention auprès des conjoints violents?
Oui, bien, tu sais, quand on parle d'hommes violents dans les services, il faut aussi se rappeler qu'il y en a plusieurs et parfois même la majorité qui sont mandatés par la Cour. Et ça fait en sorte que, par exemple, si on regarde ailleurs, si on regarde dans différents États, dans d'autres provinces, bien, il y a des normes qui ont été créées, des normes qui sont basées sur des données probantes, en fait, qui ont été développées pour assurer un certain contrôle de la qualité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder ce qui se fait du côté des États-Unis. Parce que dans plusieurs États, ces normes-là ou ces standards de qualité sont directement reliés au financement. Ça veut dire que pour être financé, le programme doit se conformer à ces normes ou à ces standards de qualité. C'est un peu le processus d'accréditation dont tu parlais, Simon. Et au début des années 2000, il y a David Adams, qui a été le cofondateur de Emerge, qui a fait un état des lieux, en fait, de qu'est-ce qui s'offrait en termes de programmes certifiés aux États-Unis pour voir, mais c'est quoi un programme de qualité? Puis, si on regarde en termes de structure de programme, il y a 5 caractéristiques qu'on va retrouver dans un programme de qualité. La première, c'est qu'on va retrouver un minimum de sessions. Un minimum de 12 semaines, mais dans certains États, ça va jusqu'à 52 semaines. Et évidemment, plus on a de semaines, plus on a de séances, mieux c'est. Mais évidemment, un bon programme doit avoir un nombre de sessions précis, pas juste une ou deux rencontres. La deuxième caractéristique, c'est qu'un bon programme va adopter une définition globale de la violence conjugale. Fait que pas juste une définition qui va se restreindre, par exemple, aux actes, mais une définition qui va considérer la peur, le contrôle, les actes de domination, etc. La troisième caractéristique, c'est qu'un bon programme doit adhérer à l'analyse du pouvoir et du contrôle. Que la violence conjugale, c'est une prise de pouvoir, que ce n'est pas un problème de santé mentale, de gestion des émotions, de communication dans le couple et de toutes les dérives qu'on peut parfois entendre dans ce domaine-là. Quatrièmement, un bon programme va faire un lien avec la conjointe ou avec l'ex-conjointe pour évaluer la progression des agresseurs. Parce que c'est les hommes qui ont des comportements violents, ils sont les pires personnes pour s'auto-évaluer. Fait que pour savoir comment est-ce qu'ils progressent réellement, il doit avoir quelqu'un attitré dans le programme pour faire un suivi avec la conjointe et l'ex-conjointe et savoir mais comment ça se passe dans le quotidien. Est-ce que la violence se continue? Est-ce qu'il continue de vous harceler? Des choses comme ça. Parce que si on se fie à la perception de monsieur et de son progrès, bien évidemment qu'on va se faire manipuler puis on ne peut pas dire qu'on a un bon programme dans ce contexte-là. Et cinquièmement, un bon programme va se faire évaluer sur une base régulière pour recevoir sa certification. Donc, pour être considéré un programme de qualité, tu dois démontrer que tu respectes les standards, que tu adhères à la définition, que ton personnel a une formation adéquate. Et là, il y aurait plusieurs autres critères, mais ces programmes-là doivent être évalués. Fait que ça, c'est, je vous dirais, les caractéristiques d'un bon programme en termes de structure.
OK, super intéressant. Puis en termes de contenu, qu'est-ce qu'on retrouve plus spécifiquement dans ces programmes-là?
Mais en termes de contenu, on doit retrouver aussi cinq éléments, cinq grands objectifs qui doivent se retrouver de manière transversale dans le contenu d'un bon programme. Le premier, c'est qu'un bon programme va amener les agresseurs à reconnaître ces stratégies de violentes et non violentes et cesser de les nier ou de les minimiser. Ça veut dire que les intervenants vont expliquer, par exemple, les formes de violence, les formes de contrôle, puis amener les conjoints violents à les reconnaître, mais aussi à les lier aux stratégies qu'eux ont utilisées avec leur conjointe ou ex-conjoint. Fait que, par exemple, d'amener un homme à réaliser, OK, voici c'est quoi la violence économique et voici les comportements que moi j'ai employés pour violenter économiquement ma conjointe. Fait que l'idée, c'est de les amener à reconnaître et non à minimiser ou à les nier. Deuxièmement, dans un bon programme, on doit avoir un accent sur la responsabilisation. Et ça veut dire qu'on va un petit peu plus loin. Fait que l'idée, c'est non seulement de reconnaître que ce que tu as fait, c'est violent, c'est contrôlant, mais aussi que c'est de ta faute et que c'est un choix que tu as fait, que ce n'est pas le stress, que ce n'est pas ton enfance difficile, que ce n'est pas ta conjointe, que c'est toi et toi seul qui est responsable de tes comportements et des conséquences sur ta conjointe et tes enfants. Puis peut-être, pour ceux et celles qui nous écoutent, la distinction entre ces deux critères-là, bien, peut-être qu'elle n'est pas toujours très claire, mais si on prend un exemple concret, imaginez qu'un monsieur a tiré les cheveux de sa conjointe. Quand on parle de reconnaissance, c'est que monsieur soit capable de dire « j'ai tiré les cheveux de ma conjointe, c'est une forme de violence physique, donc j'ai exercé de la violence physique envers ma conjointe. » C'est-à-dire « oui, je l'ai fait. » Et la responsabilisation, c'est de dire « je l'ai fait, mais j'ai fait le choix de le faire. Je suis responsable de mon action et j'en assume la responsabilité. » Ça, c'est quand même un gros morceau du travail. Troisièmement, un bon programme va viser la cessation des comportements violents. Fait évidemment qu'on va donner des stratégies pour que monsieur cesse ses comportements violents. On entend souvent parler du fameux time-out. C'est souvent ancré dans l'approche behaviorale. Mais voilà, puis ça doit aussi aller plus loin parce que, par exemple, si monsieur est dans le programme puis que madame nous indique qu'il l'a harcelé, qu'il a été violent, bien, même s'il progresse bien dans le groupe, ça ne sera pas l'alliance thérapeutique à tout prix. Un bon programme va, par exemple, appeler l'agent de probation ou le procureur au dossier pour dénoncer ces comportements-là. Fait qu'on est vraiment dans la non-violence. Quatrièmement, dans un bon programme, on va enseigner à ces hommes-là des stratégies alternatives à la violence. Donc, ça veut dire quoi? Négocier, faire des compromis, écouter l'autre. Fait que là, on est vraiment dans une perspective d'éducation. Puis, ça peut paraître simple, mais les hommes violents ont souvent tout un apprentissage à faire de ce côté-là. Puis, j'aimerais peut-être ça juste vous partager. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'assister à un groupe pour conjoints violents à Ottawa. Et c'était vraiment intéressant. Puis le thème de la soirée, c'était la négociation. Puis je me souviens que l'animatrice avait lancé, tu sais, pourquoi c'est important de négocier, comment vous négociez dans le couple. Puis il y avait un homme qui avait dit, bien, on ne peut pas négocier dans un couple parce que les hommes sont rationnels et les femmes sont émotives. Donc, l'homme doit avoir le dernier mot. Fait qu'il n'y a pas de place à la négociation. Puis je me souviens, j'avais été comme choquée de ce commentaire-là. Mais après, l'animatrice du groupe m'avait dit, ça sort souvent comme commentaire. Fait que, tu sais, ça démontre à quel point la domination de ces hommes-là puis la vision de la conjointe, il y a vraiment des choses à aller déconstruire puis c'est ancré profond. Et finalement, comme cinquième critère d'un bon programme, un programme de qualité va faire la promotion de l'égalité homme-femme dans son contenu. Par exemple, on va favoriser généralement une co-animation homme-femme, on va discuter des stéréotypes, on va les déconstruire, on va discuter ce que ça signifie l'égalité homme-femme, etc. Je pourrais en parler plus longtemps, mais disons, pour faire, ça fait un peu le tour des standards de qualité.
Wow! Il me semble qu'on a du chemin à faire. Simon, si l'ensemble de ce que Isabelle vient de mentionner, si l'ensemble des standards de qualité ou de ces normes-là dans l'intervention seraient mis en place, on pourrait être assuré que ces conjoints-là sont en démarche de changement et que la violence faite aux femmes diminuerait?
Ben, oui et non, puis bon, c'est peut-être jamais aussi simple que ça, mais c'est sûr que si on veut envisager un changement de comportement chez des hommes qui ont des comportements violents, c'est l'approche à adopter. Et donc, c'est clair qu'on a un travail à faire pour aller dans ce sens-là. En même temps, même les meilleurs programmes ont des résultats qui sont relativement mitigés et ce ne sera jamais un taux de succès de 100% loin de là. En même temps, ceci étant dit, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas ne pas mettre en place des services pour les hommes parce qu'on ne peut pas lutter contre la violence faite aux femmes en développant uniquement des services pour les victimes. Ces services-là sont essentiels, des services qui protègent les victimes, qui les accompagnent, qui défendent leurs droits, mais ce n'est pas suffisant si on veut éliminer la violence qui est faite par les hommes à l'endroit des femmes. Et c'est clair qu'il y a le système de justice pénale qui est une partie de la réponse pour les hommes qui ont des comportements violents, mais ça ne peut pas être la seule réponse. Donc, il nous faut, je pense, des services pour les conjoints violents, même s'ils ne peuvent pas, tout régler, même s'ils n'ont pas des taux de succès de 100%. Ceci étant dit, je pense que c'est important de ne pas les voir comme une alternative au système de justice pénale, mais bien comme un service qui peut être complémentaire ou qui peut peut-être prévenir parfois à ce qu'on arrive à l'étape du système de justice pénale, mais je dirais qu'il y a peut-être deux ou trois pièges là, auxquels il faut faire attention. Je pense qu'il faut toujours penser ces programmes-là comme étant un moyen et non comme un objectif en soi. L'objectif devrait toujours être l'arrêt de la violence. Donc, c'est bien si un homme accepte d'aller dans un programme pendant X nombre de semaines, mais il faut que ce soit vu comme étant le moyen et non comme la fin en soi, et il faudra évaluer si ce moyen-là a permis ou non d'amener une diminution de la violence, parce que ce n'est pas automatique que parce qu'il a participé à un programme, même le meilleur programme qui existe, que ça va amener un arrêt de la violence. Donc, il faut s'assurer que c'est un moyen et non une fin en soi, et il faut s'assurer qu'on évalue au terme de ces programmes-là et qu'on ne prend pas pour acquis que les programmes ont amené un changement. Et l'autre piège qui est peut-être associé à ça, c'est ce qu'on appelle le piège des certificats de participation. Donc, il faut vraiment considérer que la participation à un programme, c'est potentiellement une bonne chose, mais ça n'amène pas automatiquement un changement de comportement et un arrêt de la violence. Et quand un homme sort d'un programme, qu'il a participé pendant 8 semaines ou 12 semaines à un programme et qu'il a un certificat de participation, parce que c'est souvent ce que les programmes vont donner aux hommes lorsqu'ils complètent le programme, un certificat qui dit qu'ils ont participé à 7 des 8 rencontres ou à l'ensemble des 8 ou des 12 rencontres qui étaient prévues au programme, bien, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de penser que c'est un indicateur de changement. Un certificat de participation, c'est un indicateur qu'il a participé, mais ce n'est rien de plus que ça. Et il faut vraiment faire attention de ne pas interpréter, comme je dirais malheureusement, plusieurs intervenants et juges le font souvent, d'interpréter le certificat de participation comme si on avait atteint un objectif et comme si c'était un indicateur de changement de comportement. Alors, je pense qu'il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans ces pièges-là, mais il reste que de mettre en place des interventions pour les conjoints violents, je pense que c'est essentiel et c'est d'envoyer aussi le message aux victimes et à la société que c'est les hommes qu'il faut qu'ils changent leur comportement et que c'est là qu'il faut amener un changement. Donc, je pense que ces services-là demeurent quand même essentiels.
Bon, c'est ce qui conclut cette partie du balado. Merci pour toutes ces informations-là et pour vos analyses critiques sur le sujet. C'est maintenant le temps de vous donner les réponses aux questions de notre mini-quiz. On va commencer avec la première question. Quel politicien a dit « il n'y a rien de masculin, il n'y a rien de viril à être violent avec une femme, au contraire, moi je trouve ça lâche ». Eh bien, c'est le premier ministre du Québec, François Legault, qui s'est adressé aux hommes récemment dans une conférence de presse en réaction à la série de féminicides qu'a connu le Québec. À noter qu'il avait quand même ajouté à la fin de cette allocution-là que toutes nos femmes, tous nos enfants ont droit à un milieu sécure. Donc, c'était les mots du premier ministre en mars dernier. La deuxième question. Qui a dit « une intervention sans conséquence ne fonctionnera pas pour un conjoint violent. Le processus doit être désagréable et inconvénient pour lui. »
C'est notre cher Lundy Bancroft, un clinicien reconnu internationalement pour son travail auprès des conjoints violents. Puis il a dit ça dans une conférence auquel on a assisté tous les trois. C'était à l'automne 2019 à Montréal. Puis conférence tellement inspirante qu'il s'est mérité une ovation debout. Et cette citation-là, en fait, est intéressante parce qu'il part de ce qu'il a constaté dans sa pratique, puis il y a quelques décennies de pratique dans le domaine, puis ce qu'il a constaté, c'est si le processus est trop facile, si le processus est agréable, bien, ces hommes-là ne changeront pas parce que le changement, ça vient avec une perte de privilège, ce qui est désagréable en soi.
Super intéressant. On l'aime, Bancroft.
Ah oui.
OK, troisième question. Quel psychologue a affirmé « on sait très bien que la violence conjugale, c'est le résultat de ce que moi j'appelle une schismogenèse, je l'ai très bien dit cette fois-ci, complémentaire, dont les deux partenaires sont co-responsables? »
Qui aurait cru que nous allions citer Yvan Dallaire dans un de nos ben oui, c'est Yvan Dallaire. Qui d'autre pour dire des choses comme celle-là? Et je vais m'abstenir de commentaires supplémentaires sur cette merveilleuse citation.
C'est bon. Quatrième question. Qui a dit « les femmes qui tuent leur partenaire violent sont mes héroïnes car les faire disparaître de la planète est un service rendu à toutes les femmes? »
Alors, celle-là, c'est Diana Russell, une pionnière dans le domaine de la violence conjugale et de la violence faite aux femmes. Évidemment, c'est une citation qui est un peu controversée, peut-être. On était là aussi. Ben, Isabelle, j'imagine que tu t'en souviens, on était dans un colloque à Denver lorsqu'elle a prononcé cette allocution-là. Et je dois dire que ça demeure pour moi une des allocutions les plus inspirantes à laquelle j'ai assisté. Et peut-être qu'on a besoin de personnes qui prennent des positions radicales sur ces questions-là si on veut pouvoir envisager des changements importants dans notre société.
I will end by sharing with you my view that the survivors of wife abuse who have been severely battered, raped, stalked, been victimized by attempted femicide, who kill their male partners, are my heroines. Like many heroines, they have to pay a heavy price for their actions. But as long as the lives of these women are at serious risk of femicide, because of the often scandalous failure of the police and patriarchal laws to protect them effectively, I applaud them for protecting themselves by any means necessary.
Et la dernière, qui a dit « les programmes psychosociaux destinés aux agresseurs permettent d'éviter de considérer la violence comme un crime. Peut-être que les escrocs et les voleurs pourraient aussi bénéficier d'un traitement psychosocial. » Point d'interrogation, c'était Patricia Romito, la psychologue sociale de l'Université de Trieste en Italie, une autre qu'on aime beaucoup. On vous invite à la lire si ça vous intéresse d'en savoir plus. Elle a beaucoup étudié la réponse sociale et politique par rapport aux violences faites aux femmes et à la violence conjugale. Et dans cet extrait-là, je pense qu'elle semble questionner le traitement qu'on accorde aux agresseurs en contexte de violence conjugale. Et ça nous ramène au fabuleux dicton « le privé est politique ». Évidemment, elle ne veut pas que les escrocs... J'imagine que ce qu'elle dit, c'est pas que les escrocs et les voleurs devraient avoir le même traitement que les conjoints violents, mais plutôt l'inverse. Merci d'avoir écouté le balado Femmes en vie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter et n'hésitez pas à partager le balado.